Eh bien, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Jésus, je te remercie pour ce message et je te prie que chacun d'entre nous puissions bien écouter, bien comprendre, bien assimiler, afin de bien reproduire ta parole, que nous soyons ta parole vivante sur cette terre. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la lecture de ce soir, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. C'est un texte que vous connaissez tous. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. C'est un beau texte, n'est-ce pas? Alors, on sait tous que la mort, la vie, ça. Il y a un autre verset biblique qui parle on peut le lire, c'est dans Psaume 66, 12, 66, 10 plus exactement. Il est dit, en effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans un piège, tu as mis sur nos reins un fardeau pesant, tu as fait monter les hommes sur nos têtes, nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Ça, c'est la souffrance. Et voyez-vous, c'est Dieu qui fait ça. Il nous purifie au creuset comme l'argent. Et voilà, c'est des souffrances qui sont très embêtantes. Mais il faut savoir que nous savons tous, en fait, que l'argent est éprouvé dans le creuset. C'est comme ça que ça se passe. Et notre vie ici-bas, c'est une suite d'épreuves qui ont une raison. C'est pas sans raison. Il y a toujours une raison. Le travail de régénération que le disciple réalise dans le creuset, c'est un travail dans son corps. Ah, ça a du prolongé. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Il y a tellement de monde, une foule, j'ai pas du prolongé. Le creuset, c'est notre corps. Faut qu'on réalise ça. Faut qu'on voie ça comme ça. Et nous devons consacrer toute notre vie, toutes nos expériences à être éprouvées. Nos expériences, toutes ces choses, tout ça, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Il y en a des grosses, il y en a des moins grosses. Et notre esprit, il est dans le creuset, il est dans le corps. D'accord? Et quand notre esprit sortira de notre corps, il sera comme l'argent le plus fin. Parce qu'il aura été éprouvé. L'homme doit mourir à sa nature inférieure pour naître à sa nature supérieure. Alors, bon, c'est vrai que on va sortir grandi de cette vie, mais déjà, on peut sortir grandi de toutes les épreuves qu'on passe, toutes les difficultés qu'on passe, on s'en sort grandi, si on s'en passe d'une façon, si on les passe d'une façon correcte, spirituellement parlant. Et puis on passe à l'épreuve suivante qui nous grandit encore. Il ne faut penser qu'à cela. Ne pensez pas au feu de la fournaise dans laquelle vous passez. Vous savez bien quand c'est écrit, c'est un Pierre, c'est Pierre qui dit ça. Pierre, il dit d'une façon magistrale, 1 Pierre 4, 12, il dit. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Vous vous éprouvez comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez, vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lors de sa gloire, lorsque sa gloire sera dévoilée. Donc, nous prenons, nous devons être partie prenante de l'épreuve, des difficultés, des problèmes, des choses qui nous arrivent. Ne cherchez pas. Ne pensez pas au feu, ne pensez pas, c'est facile à dire, mais détournez vos regards de là, ne cherchez pas à comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe dans votre vie. Il faut que vous ayez une assurance totale. Jésus a pardonné vos péchés. Ce n'est pas parce que vous avez péché. Jésus a guéri vos maladies. Il a porté ça sur la croix. C'est une chose qui est accomplie, qui est faite. N'allez pas tout mélanger, n'allez pas remettre en question le pardon de vos péchés parce que vous êtes malade, n'allez pas remettre en question. Non, 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 non. Ça, c'est une chose qui est acquise à la croix du calvaire, d'accord? Mais on a des épreuves, c'est nécessaire, on l'a lu tout à l'heure. Vous avez, nous avons à être éprouvés parce que c'est nécessaire, c'est pas étrange, c'est nécessaire. Parce que bien que pardonnés, bien que purifiés par le sang de Jésus-Christ, nous avons encore des scories, des impuretés à séparer de l'argent que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus une valeur sûre entre les mains de Dieu grâce à son sacrifice, mais nous avons encore à être épurés sur cette terre et nous passons au creuset afin de pouvoir être justement éprouvés, épurés. Vous savez que quand on passe de l'argent au creuset, il y a les scories qui se mettent à la surface, puis on les ramasse, et puis on les jette, et puis voilà. Hein. Nous avons encore cette nature inférieure qui veut se manifester, qui veut se venger, qui veut se justifier. Eh bien, non, elle doit mourir. Elle doit mourir. C'est le sens de la parabole de Jésus. C'est là qu'intervient ensuite la parabole, donc la parabole du grain qui meurt, que je vous ai lu tout d'abord au début, c'est la mort. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, il est là, il faut qu'il meure. Mais s'il meurt, il va se mettre à porter beaucoup de fruits. Cette phrase, c'est le résumé du pourquoi nous sommes venus dans notre corps mortel, c'est-à-dire dans ce creuset où on est chauffé. C'est pourquoi on est venu. Alors, comment un grain de blé meurt-il? Comment ça se passe? Eh bien, d'abord, il est semé, nous avons été semés, hein? Ensuite, il doit se diviser, il devient deux. Et c'est quand il se divise qu'apparaît le trois, c'est-à-dire le germe qui est contenu dedans. Vous voyez, la vie, le germe, l'esprit, c'est nous. Il faut que nous devenions deux, c'est-à-dire connaissance du bien, du mal, la mauvaise nature, la bonne nature, la nature inférieure, la nature supérieure, tout ça. Et quand c'est divisé, alors le germe peut sortir. Ce germe, il puise dans les deux moitiés du grain sa nourriture, les éléments dont il a besoin pour se nourrir. C'est quand même bizarre que cette beauté a besoin de se nourrir de ça, de ce qui est inférieur. Et au bout d'un certain temps, il reste plus que l'enveloppe, c'est-à-dire pas grand-chose, et cette enveloppe, elle finit par disparaître, et puis elle pourrit dans le sol. Alors, à quoi est-ce qu'on vient d'assister là? Eh bien, on vient d'assister à la mort du grain. Et cette mort, elle est nécessaire pour que naisse une vie nouvelle. En mourant, la graine, elle libère les puissances que de la vie qui sont en nous. C'est en nous, mais il faut d'abord que ce qui est inférieur meure. Dans chacun de nous, c'est le moi inférieur qui doit mourir. Et la nature supérieure se nourrit de ça. C'est quand même étrange. Mais toutes les bonnes plantes, elles poussent du fumier. C'est quand même étrange, mais c'est comme ça. Il doit mourir pour nourrir le principe divin. Jésus nous parle de la nature, pourquoi? Parce que la nature, elle nous parle de la vie. Quand on regarde la nature, on voit la vie en action, c'est-à-dire la vie. La vie, c'est la mort pour la résurrection. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Puis si la vie, excusez-moi, mais si la vie, c'est que ça, bouf, 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 bouf. Non, c'est pas que ça. Il y a mieux. Il y a mieux. Parce que ce que nous appelons la vie, ici-bas, dans notre condition mortelle, dans le creuset dans lequel nous sommes, c'est la mort en vue de la résurrection. À partir du moment où le bébé vient au monde, il commence déjà à mourir. La mort est déjà là en train de le grignoter. La mort, elle est toujours la promesse d'une vie nouvelle. Toujours. Regardez la nature, regardez la tronche qu'elle a, la nature, en ce moment. Regardez les arbres. Et nous voilà donc face à nos deux natures qui se brisent, l'inférieure et la supérieure. Notre nature inférieure, elle correspond à notre être physique, à tout ce qui concerne la chair et toutes ces choses-là. Et notre nature supérieure, ben c'est ce qui est divin, d'origine éternelle. C'est ce germe, c'est la vie, c'est ce qui est en nous. Celui ou celle est celle qui est capable de mourir aux actes, aux sentiments et aux pensées inspirées par la nature inférieure, c'est-à-dire bornée, égoïste, obscure, eh bien celui-là, celle-là sera capable de naître aux actes, aux sentiments et aux pensées de la nature supérieure, c'est-à-dire de la nature de l'esprit. Mais qui veut mourir? On est toujours en train de se battre pour pouvoir se justifier, on est toujours en train de se battre pour avoir raison, on est toujours en train de se battre pour prouver que c'est nous qui avons raison, etc. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons capables d'atteindre ce qui est noble, ce qui est vaste, ce qui est lumineux, ce qui est noble. Alors, tout ce que nous avons à résoudre dans notre existence, chaque décision, chaque expérience, touche cette question-là. Quelle question? À quoi devons-nous mourir pour pouvoir continuer à vivre? Ou alors, si vous voulez, on peut continuer à exister. Il y a plein de gens, ils existent, hein, ils ne vivent pas. Je me lève, puis je te bouscule, gna gna gna, puis je me couche, je me lève, puis ça continue, métro, boulot, dodo, ils font qu'ils n'ont pas de vie, ils existent. Ils existent. C'est ça et c'est rien d'autre. Le véritable sens du sacrifice, c'est ça et c'est rien d'autre. Le sacrifice, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Bon, il y a des sacrifices qui ne servent à rien. Ceux-là sont une perte, mais ce n'est pas de ça dont Jésus nous parle. Jésus nous parle de sacrifice, il ne nous parle pas de ce genre de sacrifice idiot. Jésus ne nous parle pas de ça. Pour Jésus, faire un sacrifice, ce n'est pas se sacrifier. Oh. Non. C'est laisser mourir quelque chose d'inutile, c'est laisser mourir quelque chose de nuisible, c'est laisser mourir quelque chose d'inférieur en soi, afin d'obtenir quelque chose de grand, de puissant, de noble, de précieux, de glorieux. Qui est en nous? Mais les deux peuvent pas. Il y en a un qui doit mourir. Alors il faut réfléchir. Si on ne sacrifie pas ce qui est inférieur en soi pour faire vivre ce qui est supérieur, eh bien on va sacrifier obligatoirement ce qu'on possède de meilleur au profit des instincts les plus grossiers. Et c'est ce que la majorité des gens font. C'est impossible d'échapper à cette loi. De toute façon, on sacrifie quelque chose. Si on ne sacrifie pas ce qu'il y a de mauvais en nous, on va sacrifier ce qui est bon au profit de ce qui est mauvais, pour nourrir ce qui est mauvais. Notre nature supérieure, elle ne peut vivre que si nous lui sacrifions notre nature inférieure. Vous voyez ce qui... Et la vie pour l'un, eh bien, c'est la mort pour l'autre. Ce qui est la vie pour l'être supérieur, c'est la mort de l'inférieur. Ce qui est la vie pour l'être inférieur qui est en nous, eh bien, c'est la mort de ce qui est supérieur. De toute façon, c'est comme ça. Cela, c'est la signification de cette parabole. Et elle rejoint cette autre parole de Jésus qui dit clairement: celui qui voudra sauver, d'ailleurs c'est juste dans le texte après, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra la perdre à cause de moi la sauvera. On trouve ça aussi dans Marc 8, 35. Qu'est-ce que ça signifie perdre sa vie à cause de Jésus? Ça signifie renoncer à notre moi inférieur, qui est limité, qui est borné, qui est faible, qui est pauvre, pour suivre Jésus-Christ, afin de vivre la vie éternelle et abondante dont il nous parle, et de porter du fruit à sa gloire et pour notre plus grande satisfaction et le bien de ceux qui nous entourent. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que de perdre sa vie. C'est perdre ce qui est inférieur, c'est pas perdre ce qui est supérieur. Regardez la vie des hommes et des femmes de foi qu'on trouve dans la Bible. Regardez Abel qui a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à sa foi en action qu'il a été déclaré juste. Hein? J'ai eu le tampon. C'est justifié. Parce qu'il a offert quelque chose qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Enoch sacrifie sa vie au service de Dieu et il passe par la mort. Tant il était spirituel, il passe pas par la mort. Tant il est spirituel, même son corps est enlevé. Noé, il sacrifie tout pour obéir à l'ordre de Dieu. Il passe pour un idiot devant tout le monde, même sa famille doutait un peu, hein. Mais il a sauvé le genre humain. Il a sacrifié sa réputation, sa vie, son temps, son énergie, tout pour. Il a sauvé le genre humain. Abraham, il sacrifie son confort babylonien pour partir, on ne savait même pas où, un petit peu comme nous en ce moment, hein. Mais c'était pour devenir un peuple nombreux. Abraham, toujours le même, sacrifie son fils pour le retrouver comme par une sorte de résurrection, c'est ce que la Bible nous dit. La mère de Moïse, elle sacrifie son fils en le confiant à Dieu et au cours du Nil. Hein, quelle mère ferait une chose pareille? Eh bien, c'était pour sauver son peuple de l'esclavage, mais est-ce qu'elle en avait conscience? Non, il fallait d'abord qu'elle s'aime. C'est fou, hein? Moïse sacrifie sa vie confortable au palais pour la vie dans le désert, avec les moutons qui puent, parce qu'il considérait l'humiliation attachée à Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Il considérait l'humiliation attachée à Christ, donc il connaissait bien ce que c'était Christ. Et quand on lit dans les livres de Mormon que longtemps avant Jésus-Christ, il parlait déjà de Christ, il parlait ben, dans la Bible aussi, mais bon, voilà, on ne fait pas attention parce que la Bible, on la lit, on ne fait même plus attention à ce qu'on lit. Moïse sacrifia parce qu'il avait les yeux fixés sur l'avenir et non pas sur ce qu'il perdait ou ce qu'il semblait perdre. C'est pas juste. Ça paraît jamais juste. Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Qu'est-ce que nous sommes prêts? Quelle est la valeur de notre paix à venir? Quelle est la valeur de notre vie éternelle? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Qu'est-ce que nous allons laisser? Abraham, qu'est-ce qu'il a laissé aux Babyloniens? Tout. Il est parti avec sa caravane, ses veaux, ses vaches et ses cochons, puis voilà. Qu'est-ce que nous allons laisser aux Babyloniens? Qu'est-ce qu'on va laisser aux Philistins? Qu'est-ce qu'on va laisser aux Égyptiens? Vers quoi notre regard est-il tourné? Vers ce qu'on sacrifie ou vers la récompense à venir? Alors il faut que nous soyons spirituels, que nous ayons un langage spirituel. Ne nous laissons pas guider par notre nature inférieure. On s'en fout si on sacrifie 100 balles, on s'en fout. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Amen. Notre nature inférieure, il faut la sacrifier. Ce qui est inférieur, il faut le sacrifier pour ce qui est supérieur. La nature inférieure des Égyptiens qui voulaient tout, qui grignotaient tout ce qu'ils pouvaient, eh bien, cette nature inférieure les a conduits, comme les Juifs, entre les murailles d'eau de la mer Rouge, mais pas par la foi, par une audace de fou. Et ils ont été engloutis. Ils ont été très loin, les Égyptiens, presque aussi loin que les Juifs, mais ils ont fini engloutis. Parce que ce n'était pas de la foi, c'était de l'audace. La nature inférieure des Philistins les a conduits à lutter contre le peuple choisi de Dieu, et ils sont restés bloqués dans leur folie jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le monde entier connaît tout ça. Les Babyloniens qui maintenaient Israël sous le joug sont devenus un peuple du désert, un peuple du désert, qui paye encore aujourd'hui les conséquences de leur folie. Et puis les Juifs, ils n'ont pas été meilleurs que les autres, les Juifs. Hein. Je dis toujours, frères et sœurs, il y a en Afrique des Noirs. J'en connais, vous avez des gens extraordinaires, vous avez des noirs, et puis vous avez des nègres. Voilà. Hein, c'est comme les Français, il y en a des biens, il y en a des pas bien. En Afrique, il y a des Africains bien, des Africains pas bien. Les Juifs, c'est la même chose. Vous avez des Juifs formidables, vous avez des youps. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors les Juifs, ils n'échappent pas. Les Juifs qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de meilleur, c'est-à-dire Jésus, ben, ils ont été dispersés dans les nations où ils ont souffert tout ce qu'ils ont souffert. Vous voyez? C'est grave, c'est terrible. C'est terrible. Sacrifier. De toute façon, on sacrifie soit ce qu'on a de meilleur, soit ce qu'on a d'inférieur. Moi, je préfère sacrifier ce qui est inférieur. Je sais que Dieu a des récompenses, a des choses bien plus grandes pour moi que tout ça. Celui qui ne sacrifie pas ce qui est inférieur en lui-même, sacrifie inévitablement ce qui est supérieur en lui-même. Inévitablement, c'est une loi. Alors que chacun de nous se mette du côté de la pensée de Jésus pour agir avec le vrai esprit de sacrifice, le vrai esprit de sacrifice, c'est-à-dire de renoncement aux choses mauvaises, inutiles, qui nous rabaissent au niveau plus bas même que l'animal. Parce que quand je regarde les animaux, je me dis que si les humains se comportaient comme les animaux, ça irait beaucoup mieux, mais ils ne sont même pas à ce niveau-là, ils sont encore plus bas. C'est dramatique. Frères et sœurs, je vous encourage, ne regardez pas ce qu'on est en train de vivre, ne regardez pas ce qu'on perd. Regardez avec joie vers l'avenir. Amen. Et sacrifiez ce qui est inférieur, qui n'a pas grande valeur. On s'en fout. Amen. Et vous allez voir comment Dieu va nous délivrer. Vous allez voir comment Dieu va agir. Que son nom soit béni, que le nom de Jésus soit béni. Et pour vous qui écoutez ce message, je suis sûr que ça vous a parlé, vous, sur Internet, au sujet de ce que vous avez à sacrifier. Peut-être des péchés, peut-être des trucs, des machins, je ne sais pas quoi. Mais sacrifiez, foutez-moi ça en l'air. Et puis recevez de Jésus le meilleur. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur d'aider chacun et chacune à se saisir de ces paroles toutes simples. J'aurais pu me borner simplement à lire ta parole, elle était tellement parfaite. Mais j'ai commenté un petit peu en espérant que quelques-uns puissent être un peu éveillés davantage à la compréhension de ces choses merveilleuses, si saintes, si belles. Et je te prie d'oindre ces paroles que j'ai mises dans leur cœur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de soirée.